Arsenal 2026 ou Arsenal 2004, génération Thierry Henry ou génération Bukayo Saka, quelle équipe est la plus forte? La finale de la Ligue des Champions peut-elle changer la donne? C'est le débat de l'After Angleterre.
RMC, After Angleterre,
Jérôme Sillon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Angleterre. Merci de votre fidélité à écouter, à regarder sur toutes les plateformes, notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame, Julien Laurence. Salut Ju.
Salut Jay, salut à tous.
Julien qui est en direct de Budapest. Comment ça se passe à Budapest, mon Ju?
Très bien mon Dieu, très bien, de plus en plus de supporters qui arrivent, beaucoup plus d'Arsenal d'ailleurs que du PSG, mais ce qui était à attendre finalement. Il fait très beau, mais pas trop chaud non plus, sincèrement c'est parfait pour l'instant.
Voilà, on est évidemment à quelques heures de cette finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Rémi Dumont est là également, salut Rémi.
Salut Jérôme, salut Julien, salut tout le monde.
Et Alexis également, salut, supporter des Gunners depuis 2002, ça fait 24 ans que ça dure cet amour pour Arsenal. Salut Alexis.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Alexis. On va parler donc, on va comparer les deux générations qui ont marqué donc l'histoire d'Arsenal. Mais d'abord, raconte-nous toi un petit peu ton lien avec les Gunners. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est créé?
Alors moi, mon lien avec les Gunners, alors c'est très proche de mon lien avec le football de manière générale. Hein. Je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, je suis un peu un enfant de 1998, de la Coupe du Monde. J'avais 8 ans, donc jusqu'à mes 10-12 ans, le football, ça passe surtout par l'équipe nationale. Et puis après, qui dit équipe nationale, forcément, dit Arsenal, finalement, la voie est toute tracée, l'équipe des Frenchies. Et puis après, j'ai jamais lâché cette équipe, donc ça a commencé comme ça.
Quel courage de ne pas avoir lâché Arsenal à l'époque où cette équipe n'a pas gagné le moindre titre de champion en 22 ans. En 22 ans, il en a fallu du courage. Bon, on va donc comparer ces deux générations, donc 2004 et 2026. Mais d'abord, si on a décidé aussi de choisir ce thème-là, de faire cette comparaison, c'est parce que Thierry Henry, on a parlé sur CBS à l'issue de la demi-finale remportée par les Gunners contre l'Atlético de Madrid. Il s'était adressé à Bukayo Saka dans cette séquence qui a fait le tour du monde et qui tutoie aujourd'hui le million de vues sur la chaîne YouTube de la chaîne.
Please, I wish you all the best because we couldn't do it. And I hope that you're going to be able to do it. And I know I will repeat it myself because I want that name to stay. If you guys do it, you ever manage to do it and you go on to win the title also, I don't want to jinx nothing. We're still not there. You know I stay in my lane. But you guys will be known as the Unforgettables. We were the Invincibles. So go and get that.
Thank you, man. Thank you.
Voilà, c'est cette vidéo dans laquelle Thierry Henry dit donc que nous ne sommes pas parvenus, nous, notre génération, à remporter la Ligue des Champions. Mais j'espère que vous y arriverez, vous seriez alors les inoubliables, alors que nous, nous étions les invincibles. Alors avant de comparer ces deux générations et pour mieux comprendre surtout, on va peut-être commencer par analyser la saison des Gunners 2025-2026. Rémi, quel est le bilan en Première Ligue des joueurs de Mikel Arteta?
Ils sont donc champions avec 85 points, 26 victoires, 7 nuls et 5 petites défaites. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat avec 71 buts marqués derrière Manchester City. C'est la première défense avec seulement 27 buts encaissés. Et ils sont surtout restés 31 journées en tête du championnat. Ils terminent avec 7 points d'avance sur Manchester City avec 78 points et 44 points d'avance surtout sur Tottenham qui termine 17e avec 41 points.
Dans l'histoire du football anglais, même plutôt, on va dire plutôt le rétrécir jusqu'à la première ligue, Ju, depuis 1992, cette saison d'Arsenal, ce titre de champion, est-ce que c'est une grande génération? Est-ce que c'est une grande équipe? 85 points, c'est quand même très loin de ce qu'avait réussi Manchester City en 2018 avec 100 points. C'est même inférieur à ce qu'a fait Liverpool parfois en étant deuxième du classement. Comment on situe cette saison des Gunners dans l'histoire de l'APL?
Ouais, elle est sûrement un petit peu moins flamboyante, on va dire. Je pense que c'est un bon mot pour la qualifier que, effectivement, les Centurions de Guardiola et de City, même les 98 points de City et 97 de Liverpool à cette saison-là, finissent deuxième. C'est des équipes qui perdaient qu'un match dans la saison, deux matchs maximum parfois, où il y avait très peu de matchs nuls aussi, s'il y avait parfois plus de défaites. 5 défaites, 7 matchs nuls, c'est un bilan à 85 points qui est très honorable, bien sûr. Et puis surtout, ça suffit pour être champion. C'est ça, mais avec 85 points, il y a des saisons où tu aurais fini 3e, 4e de Première Ligue. Parce que c'est vrai que cette saison-là, et ce n'est pas une saison vintage non plus, par rapport au niveau des équipes contre lesquelles Arsenal a joué, ça n'enlève rien du tout au mérite d'Arsenal d'être champion cette saison. Parce que tu ne peux que gagner ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a en face de toi. Mais c'est vrai qu'avec 85 points, tu es un petit peu loin de certains standards qui avaient été fixés par Guardiola et Klopp il y a quelques années.
Alexis, toi, quel regard tu portes sur cette saison d'Arsenal et sur la valeur de ce titre de champion ?
Alors, je pense que déjà, il a beaucoup de valeur, hein, du fait de l'attente notamment. Après, la saison a été, relativement tranquille, je vais dire, jusqu'au dernier match où là, il y a eu un peu plus de stress. Mais en étant premier une grosse partie de la saison, on regardait dans le rétro. Alors, on a vu Manchester City se rapprocher un petit peu trop.
Vous dépassez même.
De manière générale, sauf les 5-6 dernières journées, ça a été relativement tranquille.
Ouais, bah relativement tranquille. Il y a quand même un moment où City, vous êtes passé devant quand même, Alexis.
C'est pour ça que j'ai lu les 5-6 derniers matchs, mais sur avant cette journée-là et puis le match nul de City à Everton, où là ça a été on a pu souffler un petit peu, mais Arsenal a été en tête finalement quasiment toute la saison.
Ouais, c'est vrai. Quelle est l'équipe type des Gunners du coup qui est championne d'Angleterre, même si évidemment on le sait qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de
Beaucoup de turnover surtout. Après, ça dépend aussi des compétitions qu'ils ont pu jouer cette saison. Mais voilà, on vous a dégagé un 11 type, surtout avec on va dire le temps de jeu passé sur le terrain avec Raya dans les buts, Gabriel Saliba en défense centrale, Timber latéral droit et Calafiori latéral gauche, Zoumi Mendy, Declan Rice et Martin Odegaard au milieu de terrain avec Zoumi Mendy en pointe basse, Martinelli à gauche, Saka à droite et Gyökeres en neuf. C'est le meilleur buteur de cette équipe, toute compétition confondue cette saison avec 21 buts. Et le meilleur passeur est Declan Rice avec 11 passes décisives cette saison.
Bon, c'est peut-être d'ailleurs l'équipe que l'on verra face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jus. Cette composition d'équipe, quel est selon toi peut-être le point fort de cette équipe d'Arsenal ? On parle souvent du diamant de derrière, là, Gabriel, Zubimendi, ou plutôt Declan Rice quand il joue là avec Saliba et Raya.
Ouais, c'est vrai, c'est plus Rice maintenant qui joue dans cette pointe basse. Lewis Kelly est revenu dans l'équipe alors qu'il avait été pas ignoré, mais pas trop utilisé, on va dire, pendant les trois quarts de la saison. Tu peux mettre Trossard à gauche aussi, par rapport à l'infographie que Rémi vient de montrer. Et pour la finale, après, il y a des choix à faire forcément entre Havertz et Gyökeres. Si Timber est vraiment prêt à jouer un match de ce niveau-là ou pas, après trois mois d'absence quasiment. Donc voilà, il y a quelques points d'interrogation sur ça. Pour moi, c'est le collectif avant tout. Peut-être plus même encore que les Invincibles, qui avaient vraiment des joueurs de classe mondiale, mais que tu sortais un petit peu du lot finalement. Là, pour moi, c'est un collectif qui a été bâti par Mikel Arteta et par Andrea Berta et avant lui, Edu, les deux directeurs sportifs que Mikel a eu avec lui au club. C'est une équipe qui a une mentalité impeccable, qui a la meilleure assise défensive, la meilleure structure défensive sans ballon. On le répète assez souvent, mais c'est le cas. Donc, c'est une équipe vraiment impressionnante collectivement, peut-être plus encore même que les Invincibles.
D'accord avec ça, Alexis ? D'accord avec Jus sur la stabilité défensive et sur la prédominance du collectif sur l'individualité ?
Ouais, complètement. Je pense déjà que la partie défensive est quand même le point fort d'Arsenal cette saison. Devant, les stats de Gyökeres, ça reste en demi-teinte, évidemment. Sur le papier, il fait une bonne saison. Après, je pense qu'on attend beaucoup plus de lui devant. Tout simplement qu'il soit plus tueur. On a beaucoup compté sur Trossard notamment ou Saka, mais personnellement, moi j'attends beaucoup plus de Gyökeres.
Bon, et sur l'aspect défensif, quelle est selon toi la clé du succès d'Arsenal cette saison, Alexis ? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans ce système-là ?
C'est la doublette centrale, hein. Gabriel Saliba, je pense que c'est très 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 solide. Ça doute pas ou peu. Le point d'interrogation reste évidemment le côté droit. J'ai peur que Timber soit un peu juste, même pour tenir 90 minutes. C'est ça qui me fait un peu peur.
Julien, est-ce qu'on est dans le vrai si on dit que Gabriel Saliba, c'est peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde ?
Oui, je pense. Je suis tout à fait d'accord. On peut regarder toutes les grandes équipes, tous les grands clubs. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver une défense centrale qui est meilleure que celle-là. Alors oui, Marquinhos, Pacho, c'est très fort. Tao Pamecano, ça a aussi été très fort. Kusanov, par exemple, a été très bon avec Gueye par moment cette saison. On peut aller regarder du côté du Barça et Gérard Martin et Koubarsi par exemple, qui aussi peuvent être très bons, ont des belles qualités, c'est sûr, pour des jeunes joueurs. Bon, le Real, c'était un petit peu plus compliqué, mais on peut regarder en Italie aussi, un peu partout. Pour moi, il n'y a rien de plus solide défensivement que Saliba et Gabriel, en plus avec Raya derrière. Et quand tu prends aussi en considération la menace offensive de Gabriel sur coup de pied arrêté, plus que Saliba, mais Saliba, lui, fait partie en fait des combinaisons sur les coups de pied arrêtés, mais c'est Gabriel qui est au final le joueur qu'on va chercher le plus. Ça les différencie beaucoup de toutes les autres charnières centrales.
Rémi, je te vois acquiescer.
Oui, parce que je regardais justement les statistiques aussi en Ligue des Champions, parce qu'on compare beaucoup en Première Ligue, mais Arsenal est l'équipe qui a le plus réalisé de clean sheet en Ligue des Champions, avec 9 matchs sans encaisser de but, ce qui montre bien qu'au-delà de la Première Ligue, c'est à l'échelle internationale que la défense d'Arsenal fait ses preuves.
Bon, on fait une petite pause dans l'After Angleterre, on vient tout de suite, et là on vous parle de la génération 2003-2004, les Invincibles, et ensuite on pourra se prononcer quelle génération vous préférez. À tout de suite. De retour dans l'After Angleterre, toujours avec notre drôle de dame Julien Laurence, avec Alexis, supporter d'Arsenal, et avec Rémi Dumont. On compare la génération d'Arsenal 2003-2004, les Invincibles, à ceux qui pourront peut-être devenir les inoubliables, les joueurs de Mikel Arteta 2025-2026. 22 ans séparent ces deux générations-là. Alors, on a parlé de la saison d'Arsenal, la saison actuelle. Retour en arrière, on fait un petit flashback, Rémi, 2003-2004. La saison des Invincibles en Première Ligue, ça avait donné quoi ?
Elle était énorme, puisqu'ils avaient été sacrés champions d'Angleterre avec 90 points, 26 victoires, 12 nuls et donc aucune défaite, puisque ce sont les Invincibles. Meilleure attaque, 73 buts marqués, meilleure défense, 26 buts encaissés, 31 journées passées en tête, comme le Arsenal de cette saison, hein, 2025-2026. Surtout 11 points d'avance sur Chelsea, qui était alors deuxième de Première Ligue avec 79 points. Et là, 45 points d'avance sur l'ennemi Tottenham, qui avait terminé 14e de Première Ligue avec 45 points.
Toi, tu veux pas te faire des amis parmi les fans des Spurs, toi ?
Non, mais je pense que ça fait plaisir aux supporters d'Arsenal, surtout.
Effectivement, évidemment. Je vois Alexis qui sourit. Ça fait plaisir, évidemment, d'être toujours devant Tottenham ?
Toujours, toujours. C'est un principe qu'il faut pas oublier. Il faut pas lâcher chaque saison. C'est la petite victoire. Après, évidemment, quand il y a le titre au bout, c'est encore plus savoureux. Et quand on voit leur saison qui a été catastrophique, ça apporte un peu de plaisir en plus.
Bon, Julien, à quel point cette génération 2003-2004 a marqué l'histoire et d'Arsenal et du football anglais ?
Bah déjà parce que c'est tellement rare de faire une saison complète en championnat sans perdre. La dernière fois, c'était Preston en 1988, donc ça remonte effectivement il y a très longtemps. Il y a une raison pour laquelle c'est très très rare, voire quasiment impossible, c'est parce que c'est vraiment très compliqué de le faire dans le meilleur championnat du monde. C'est pour ça que pour moi, cette équipe, et moi je suis arrivé à Londres en janvier 2004, donc j'ai connu toute la seconde partie de saison avec eux, tous les matchs à domicile à l'extérieur. J'étais très proche à l'époque, bien sûr, Robert et Thierry aussi, et Gaël Clichy. Donc, quand tu le vivais de l'intérieur en plus, c'était encore plus impressionnant. Ils avaient ce sentiment d'être vraiment invincibles. Alors, je sais qu'on les appelle comme ça parce qu'ils n'ont pas perdu, mais chacun d'entre eux te raconteront qu'ils entraient sur le terrain en sachant qu'ils ne perdraient pas ce jour-là, peu importe l'adversaire, peu importe où le match avait lieu. Et c'était vraiment impressionnant d'être là, d'en faire partie. Arsène était dans un monde complètement à part aussi, donc ça a marqué pour moi finir une saison invaincue comme ça. Alors il y a eu des saisons comme le Benfica de cette saison par exemple au Portugal qui finit invaincu et qui n'est pas champion, mais si tu es champion invaincu en plus, comme le Bayer Leverkusen par exemple de Xabi Alonso il y a deux saisons de ça, pour moi ça te met encore au-dessus même de beaucoup d'autres équipes de ton championnat, des grandes équipes du passé.
Alexis, comment tu avais suivi, toi, cette saison 2003-2004 des Gunners, celle où ils finissent donc invaincus à la fin de la saison ?
Je l'avais suivi évidemment de très près. Je pense que le summum, c'est le match nul à White Hart Lane, forcément. Mais ce que je retiens de cette équipe, c'est les individualités, surtout avec un effectif, je pense, un 11 bien au-dessus, et je pense qu'on y reviendra par rapport à celui actuel, mais je pense que l'effectif actuel est plus étoffé. Là, il y avait vraiment un 11 en 2003-2004 qui se dégageait vraiment, à mon sens.
Tiens, on va le commenter, ce 11, avec toi, Rémi, on va le voir apparaître sur vos écrans. C'est vrai qu'il y a du lourd.
Ouais, il y a du lourd à tous les postes, hein, quasiment, puisque Lehmann était dans les buts. Une défense centrale, Kolo Touré comme Mel. Lorenz à droite, Ashley Cole à gauche. Vieira, Gilberto Silva en milieu défensif, puisque c'était un 4-4-2 à plat. Robert Pires sur l'aile gauche. Freddy Ljungberg à droite. Et un duo d'attaque, Henri Bergkamp, qui est quand même ultra costaud.
Dans la façon de jouer, dans la philosophie de jeu entre ces deux générations-là, qu'est-ce qui différenciait les Gunners 2003-2004 de ceux de Mikel Arteta, Jus?
C'est le Wenger ball en fait, c'est le football total à sa manière à lui, il y avait tellement de mouvements, ça jouait tellement bien au ballon. Après, quand tu as des joueurs comme ça, forcément ce serait criminel de jouer autrement, mais c'était juste parfait pour la Première Ligue à ce moment-là, voire même pour la Ligue des Champions. Le grand regret de cette génération, c'est cette année-là, de ne pas avoir battu Chelsea en quart de finale dans une Ligue des Champions qui s'était largement ouverte, où Monaco va en finale en battant Chelsea justement en demi-finale et ensuite perd contre le Porto de Mourinho. Mais le regret, il est là surtout, mais une équipe comme ça, ça jouait tellement bien en ballon, c'était un vrai régal, ça se connaissait par cœur, ça pouvait jouer les yeux fermés. Si on regarde de chaque côté les duos, que ce soit Cole Pires, Lorraine Ljungberg, la relation entre Bergkamp et Henry, le milieu de terrain entre Gilberto Silva et Vieira, c'est parfait. Et puis même un jeune Kolo Touré à côté du plus ancien, on va dire, Saul Campbell. C'était tellement solide. Donc, c'était vraiment beau. Et ce qu'on n'a pas mis là, mais qu'on aurait pu mettre aussi, c'était le banc. Parce que derrière, tu as quand même des joueurs comme Nwankwo Kanu, comme Edu, comme Clichy, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, même sur le banc, tu avais vraiment, vraiment des joueurs qui pouvaient aussi changer la physionomie d'une rencontre. Donc, c'était solide. C'était technique, c'était intelligent, c'était arrogant dans le sens positif du terme, dans l'ambition, dans ce qu'on voulait faire. Quand vous avez Thierry qui vous emmène sur un terrain, à cette époque-là, il marche sur l'eau en plus. C'est juste incroyable quoi, d'avoir un leader pareil. Et cette équipe, pour moi, elle avait tout. Elle avait tout, elle aurait dû gagner plus de ce qu'elle a fait, plus que 2002 et 2004, parce que finalement, c'est la même génération. Elle aurait dû gagner beaucoup plus en Europe aussi, malheureusement. Il y a eu des circonstances qui étaient un petit peu contre eux à des moments, mais c'était un vrai régal à voir jouer.
Ouais, et quand Jus parle de Thierry Henry, il terminera à la fois meilleur passeur, toute compétition confondue pour l'équipe avec 30 buts, et meilleur buteur et donc meilleur passeur avec 19 passes, toute compétition confondue. Donc décisif 49 fois quand même.
Bon, si on met la Première Ligue de côté et qu'on compare du coup les deux saisons, toute compétition confondue des Gunners, celle donc de cette saison et celle de 2003-2004, quel est le
ça nous donne déjà un petit indice de réponse quand on regarde les statistiques, puisque en termes de Première Ligue, alors évidemment en 2003-2004 et cette saison, ils terminent tous les deux champions, c'est pour ça qu'on les compare. En FA Cup, l'équipe de Vieira s'arrêtera en demi-finale contre les quarts de finale pour l'équipe de William Saliba. La Carabao Cup, l'équipe de 2004 terminera en demi-finale, alors que cette année ils ont été jusqu'en finale face à Manchester City, où la finale a été perdue. En Ligue des Champions, les hommes de Arsène Wenger termineront en quart de finale. Et on vous a mis la finale parce qu'on enregistre ce podcast le vendredi, veille de la finale de Ligue des Champions face à Paris. Donc quoi qu'il arrive, l'équipe d'Arsenal aura mieux fait cette saison. Ils peuvent encore aller plus loin en la remportant demain soir.
Bon, Alexis, ta préférence, 2003-2004 ou 2025-2026?
Je dirais 2003-2004. Je pense que c'est un souvenir de môme. Déjà, c'est un souvenir, et puis c'est une équipe, et ça jouait vraiment bien au ballon. On se souvient des résultats pour cette saison. En termes de jeu, je pense que avec 2003-2004, c'est incomparable.
Ouais, c'est aussi ce qui te fait pencher en faveur de cette génération 2003-2004, Jus. Et puis, bon, c'est vrai que le fait que ça soit il y a 22 ans, ça, on a tendance à mettre de côté parfois les moins bons matchs ou les petites polémiques. Là, c'est encore frais finalement ce qui s'est passé en 2025-2026.
Ouais. Sachant qu'en 2004, Arsenal disputera 52 matchs avec une moyenne de 2,17 points par match. Cette saison, c'est 62 matchs disputés déjà pour les hommes d'Arteta avec une moyenne de 2,34 points par match.
Où va ta préférence, toi, Jus?
Moi, je pense que si cette génération-là remporte la Ligue des Champions, bien sûr, c'est au-dessus de tout. Ça devient la plus grande équipe de l'histoire du club et une des plus grandes équipes de l'histoire du football anglais. À faire le doublé, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Après, sur le style de jeu, on se rejoint tous. Je suis d'accord avec Alexis aussi. Le football, sincèrement, produit par cette équipe en 2004 était incroyable, simplement exceptionnel, avec des joueurs exceptionnels aussi individuellement. Moi, j'aime quand même ce qu'Arteta a construit avec cette équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que 2004, tu arrives aussi sur un titre de 2002, 98. Wenger avait déjà plusieurs années en place, il avait pu mettre des choses, il avait hérité de certains joueurs comme Bergkamp par exemple, avant d'amener les joueurs, ses joueurs à lui, comme Patrick bien sûr, Thierry, etc. etc. Mais il y avait déjà un vécu de vainqueur, de champion. Cette année, s'ils arrivent à faire le doublé alors qu'ils n'avaient rien gagné depuis 22 ans, enfin, à part quelques coupes d'Angleterre, mais c'est tout, quoi. Pour moi, c'est encore plus impressionnant dans un sens. Parce que oui, cette année, les Invincibles, c'est beau, c'est très, très beau. Mais encore une fois, tu avais cette culture de la gagne, finalement. Tu étais déjà, t'étais soit premier, soit deuxième depuis maintenant 6 saisons avant ça. Pour cette équipe d'Arteta et cet effectif-là et cette génération actuelle, c'est très, très différent, la dynamique. Et pour moi, ça a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très beau dans ce qu'ils sont en train de faire là, cette saison. Et s'ils venaient à gagner encore samedi la finale, ça les amènerait bien sûr dans une autre dimension, mais je pense qu'il y aurait encore plus de mérite finalement que cette équipe de 2004 qui était formidable mais qu'on avait vu venir dans un sens. 2003 déjà, la saison précédente, ils sont invaincus à l'extérieur. Ils font toute une saison, 19 matchs de championnat sans perdre à l'extérieur. Donc déjà tu savais, et d'ailleurs Arsène en parle très très bien, il avait déjà compris qu'en 2002-2003, donc la saison précédente, il y avait quelque chose de très spécial qui se formait. Quand tu es invaincu à l'extérieur en première ligue sur une saison entière, tu dis bah, déjà franchement c'est assez incroyable en soi. Que l'année d'après, tu continues à faire une saison entière cette fois. Et d'ailleurs, ils iront jusqu'à 49 matchs, puisqu'ils iront jusqu'au début de la saison suivante, au 4, donc 2004-2005. Ils iront perdre à Old Trafford sur un match où ils se sont fait voler d'ailleurs par United et Wayne Rooney. Mais ça aurait pu être même plus que 49 matchs sans défaite d'affilée en championnat. C'est juste incroyable. Mais encore une fois, tu avais déjà gagné avant et tu avais un groupe qui était bien plus un groupe de winners que le groupe actuel qui, lui, à part quelques-uns, n'avait rien gagné jusqu'à ce titre de Première Ligue il y a quelques jours.
Rémi, tu avais préférence, toi ?
Celle de 2026, parce que pour tout ce qu'a dit Jus, et par rapport au fait que voilà, ça s'est construit aussi peut-être sur la durée en 2026, parce qu'il ne faut pas oublier les deux fois ils ont terminé deuxième de Première Ligue, et justement le travail réalisé par Edu, surtout qui a quitté le club. Mais quand on voit la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qu'il y a encore plus de matchs, faire le doublé, ce serait énorme. On va dire que voilà, pour la belle histoire, ce serait celle de 2004, mais pour la légende, ce serait celle de 2026.
Le doublé Première Ligue, Ligue des Champions en Angleterre, tu me dis si je me trompe, Jus, City l'a fait, United l'a fait deux fois, Liverpool l'a fait deux fois, donc ça serait évidemment historique.
Ouais, historique. Après, on peut remonter à Forest, bien sûr, qui avait cité champion la première fois, et après ensuite la Ligue des Champions, donc c'est pas exactement la même chose. Mais oui, c'est historique, c'est très dur à faire. Donc, tu sais à quel point la Première Ligue pompe de l'énergie et mentale et physique, et à quel point c'est compliqué de la gagner. Si en plus tu gagnes la Ligue des Champions, c'est forcément spécial, puisque comme tu l'as dit, Jay, et à juste titre, c'est tellement rare que forcément ça t'amène dans une autre dimension.
Jus, par rapport à cette victoire en Première Ligue, comment ils abordent la finale de Ligue des Champions ? Est-ce que ça va les booster ou est-ce que ça peut au contraire un petit peu faire redescendre la pression ?
Non, au contraire, il n'y a plus de pression, je crois, Rémi. Sincèrement, l'objectif en début de saison, c'était de gagner la Première Ligue, pas la Ligue des Champions. Ils voulaient une progression, ils venaient de faire quart de finale, demi-finale sur les deux dernières saisons, mais l'objectif, c'était la Première Ligue. La saison, elle est réussie, en fait. Quoi qu'il arrive samedi soir à Budapest, elle sera réussie. Alors, elle sera magnifique s'il y a le doublé, la victoire en Ligue des Champions. Mais s'il y a une défaite, ils seront déçus, forcément. Les joueurs, les supporters, tout le monde sera déçu. Mais la saison, elle sera déjà réussie. Et la saison prochaine, tu repartiras avec vraiment encore plus la volonté d'aller chercher ce doublé que tu auras approché, que tu auras pu toucher limite, mais pas vraiment, vraiment emporté. Mais la saison, elle est déjà réussie. Donc en fait, ça t'a enlevé de la pression. Je suis convaincu que s'ils avaient perdu le titre la dernière journée, par exemple, ils auraient perdu cette finale de Ligue des Champions quasiment garantie. Là, sincèrement, ce n'est pas un bonus parce que c'est une finale de Ligue des Champions et c'est magnifique en soi dans une carrière, mais ils arrivent vraiment sans la pression de la saison réussie parce qu'elle est déjà réussie.
Toi, en tant que supporter, Alexis, justement, est-ce que tu es rassasié ? Est-ce que tu considères déjà que c'est une grande réussite, cette saison ?
La saison est réussie. Le titre de champion, c'est ce qu'on attendait tous. Je pense que c'est un soulagement. Maintenant, évidemment, il reste un match. Et puis, si on termine en beauté, c'est extraordinaire. Donc, rassasié, non, parce qu'on a envie que le club gagne toujours plus. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, la saison, elle est déjà réussie.
Le plus important, c'était vraiment de regagner ce trophée domestique, cette Première Ligue. J'ai l'impression, mais c'est vraiment un truc très anglais, ça, que finalement, la Première Ligue, elle a plus d'importance que la Champions League. Ça se voit qu'en Angleterre, ça, presque. Julien, Alexis, Allez-y.
Ouais, je savais pas si c'était pour moi ou pour Alexis. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jay, c'est sûr. Surtout quand tu l'as pas gagné depuis 22 ans, le championnat. Si Arsenal venait à gagner, par exemple, 3 titres de champion de suite, sans avoir remporté la Ligue des Champions, à un moment, ça deviendrait un objectif, comme ça l'a été pour City, par exemple, qui lui a su faire un peu tout en même temps avec Guardiola. Mais il y a un moment où vraiment, la Ligue des Champions, c'est devenu l'obsession du côté de City. Et ils y sont parvenus au final. Mais oui, c'est vrai que pour beaucoup de supporters en début de saison, si tu avais dit première ligue ou Ligue des Champions à gagner, tu peux en gagner qu'un seul, je pense que 90% auraient choisi la première ligue.
Alexis.
Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'était vraiment débloquer le compteur première ligue. On avait trop attendu. Après, à un moment ou à un autre, il faudra forcément gagner la Ligue des Champions. Ça devient majeur. Je pense que Arsenal est le club le plus important qui n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, et il faut passer de l'autre côté un jour ou l'autre.
Est-ce que c'est pour demain, Alexis? Est-ce que c'est pour ce samedi?
On espère. Arsenal n'est évidemment pas favori à mon sens, mais alors on parle toujours, c'est sur un match, et on compte sur une bonne défense, une défense qui a été excellente toute la saison, et puis un collectif qui s'est plié subir le jeu quand il faut, donc on espère.
Bon, Julien, quel est l'état d'esprit des fans des Gunners que tu as pu croiser à Budapest?
Ouais, ils sont très confiants aussi. Tout le monde est un peu confiant. C'est bien d'ailleurs, hein, autant approcher une finale pareille en confiance. Il y a beaucoup, beaucoup de supporters qui sont ici. Il y a des fan zones qui sont là quasiment uniquement et exclusivement pour les supporters d'Arsenal, qui sont venus nombreux sans billets aussi, en plus de ceux avec billets, bien sûr. Mais ce serait formidable. Ce serait une saison qui a été, à tout point de vue, assez exceptionnelle dans le suspense, dans l'anxiété parfois, dans le stress, mais aussi dans la qualité du jeu sur la première partie de saison et dans le pragmatisme sur la deuxième partie de saison. Si tu arrivais à terminer la saison sur une victoire en Ligue des Champions en plus, alors là, ce serait le plus beau jour de beaucoup, beaucoup des supporters d'Arsenal.
Et on va vivre ça demain, ce samedi, journée spéciale évidemment sur RMC. Merci beaucoup Julien Laurence, merci Alexis, bon match, bonne finale à tous.
Merci.
Les deux, bonne finale également à toi.
Merci
Rémi,
bien.
C'était le
merci.
Dernier After Angleterre de la saison, on se retrouve évidemment la saison prochaine. Et d'ici là, eh bien, si vous avez envie de réécouter tous les épisodes, ils sont disponibles bien évidemment en téléchargement. Non, il n'y a pas de vacances, il y a la Coupe du Monde qui arrive.
Mais pour ceux qui sont en vacances, pas nous
oui.
Évidemment.
Bien sûr. Allez, à bientôt, ciao.
RMC, After Angleterre.